C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par deux dossiers concernant la violence faite aux enfants. Et c'est toujours très dur d'aller chercher la preuve quand les victimes sont pas en âge de parler ou qui ont beaucoup d'enjeux de santé. On va parler ce matin avec Louise. C'est pas son véritable prénom. Faut protéger les identités. Mais c'est la mère d'un bébé qui aurait été violenté par une éducatrice dans un milieu familial. Ça s'est passé l'été dernier en Montérégie. Et elle se demande pourquoi c'est si long. Et vous allez comprendre l'angoisse de cette mère-là. D'une part, il y a une enquête de la police qui a été faite. Le bébé a 10 mois quand c'est arrivé. Donc, c'est un enfant qui parle pas, il peut pas dire grand-chose. Il y a une plainte qui a été logée au bureau coordonnateur pour dénoncer la situation. Il y a une enquêteur qui s'est déplacée sur place pour enquêter donc la plainte. Son bébé était un bébé souriant, enjoué, puis là, soudainement, il était comme plus triste, plus renfermé. Et on a découvert une ecchymose importante sur une fesse de l'enfant. La DPJ est entrée dans le dossier et les médecins ont conclu que le poupon avait été maltraité. Et la Sûreté du Québec a pris le dossier. Depuis ce temps, et là, c'est rendu au DPCP, il y a une évaluation qui a été faite par l'hôpital Sainte-Justine. Mais il paraît qu'on manque de papier, là. Que l'enquête avance pas, il y a un manque de collaboration, même si les parents ont donné leur consentement entre l'hôpital et la police. Alors, c'est donc de se dire, on arrive au mois de quoi, avril, et c'est arrivé durant l'été, puis ça semble pas vouloir avancer. Et l'enfant parle pas, puis même on lui aurait dit, vous savez, compliqué quand la victime n'est pas capable de verbaliser ce qu'elle a vécu. La preuve est difficile à monter, c'est pas impossible. L'autre cas, c'est dans la presse ce matin. C'est encore là d'une tristesse. C'est un petit bonhomme qui est autiste, déficient intellectuel, âgé de 9 ans. Et ses parents l'ont confié l'an dernier à l'unité Le Jardin du 6 de Laval, un centre de réadaptation. Puis dans ce centre, vous retrouvez donc des enfants qui ont quand même un lourd bagage à traîner. Donc cette enquête d'Ariane Lacourcière et de Caroline Touzin nous montre que cet enfant-là a eu des fractures, des ecchymoses, des caries, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène dentaire, problème de peau. Selon les parents, il aurait été maltraité, négligé, privé de ses outils de communication, d'une grande stabilité. On sait que ces enfants-là ont besoin d'un programme clair, il ne faut pas déroger. Et il y a donc une poursuite qui a été logée contre l'établissement. Quand vous dites que cet enfant-là a eu le bras fracturé à deux reprises, que le CIS a donné des versions différentes, en disant qu'il s'était blessé tout seul. Après ça, on a dit non, il est avec un ado qui a aussi des problèmes. Également, ce que les parents pensent, là, en gros, c'est que c'est pas qu'on a ciblé l'enfant pour le frapper, lui faire mal. Ce sont des enfants qui peuvent pousser à bout de nerfs, même des gens qui sont formés, et qu'on aurait perdu patience avec l'enfant. L'enfant est allergique à un certain nombre de choses, puis on lui a donné quand même ces produits-là, puis il y a eu une réaction. Mais tu dis, comment on a pu maltraiter ces enfants-là? Parce que je parle au pluriel, il y a d'autres enfants qui ont fait l'objet de signalements. Pas des enfants faciles, ça demande énormément de patience, mais on le voit, des parents à bout de souffle qui pensaient faire une bonne affaire en plaçant l'enfant et ils se sont rendus compte que, au contraire, il a été victime de cette maltraitance. Je vais parler avec Ariane Lacourcière un peu plus tard ce matin. Et ça arrive au moment où, je vais en reparler plus en détail pour les autres syndicats, mais les travailleurs de la DPJ se sentent encore une fois pas assez valorisés par l'entente qui a été conclue entre le gouvernement et le Front commun. Je peux pas mesurer la grogne, mais beaucoup de travailleurs, puis ce sont des témoignages dans le Devoir ce matin, des travailleurs sociaux, des gens qui interviennent, des intervenants de la DPJ qui disent « Lionel Carman s'est fait aller, puis il nous a promis bien des affaires, mais au final, le règlement est pas suffisant pour bloquer les gens qui quittent vers des CLSC, qui vont ailleurs dans le réseau, parce que la surcharge est telle, puis c'est pas juste une surcharge de travail, c'est une charge émotive quand même importante. Donc, il y a encore là beaucoup d'insatisfaction. Parlons de ce qui se passe Israël, Iran et Gaza, le triangle si vous voulez. D'abord, Israël promet une réplique suite aux attaques de drones et de missiles de la fin de semaine. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, quelle sera l'ampleur de cette réponse, mais plusieurs intervenants des militaires israéliens qui déclarent ce matin que c'est un incontournable. Le cabinet est divisé. Vous avez des faucons qui siègent au cabinet, des gens de l'extrême droite qui veulent une réponse brutale, immédiate, pour envoyer un message très clair. Vous avez les Américains, le groupe des sept, les Nations unies, qui multiplient les pressions sur le gouvernement pour que ce soit, disons, modéré, ou en tout cas qu'on ait plutôt tendance à éviter une escalade. Et l'Iran qui dit que s'il y a une attaque de l'Iran, de Israël, contre l'Iran, eh bien, à ce moment-là, Téhéran va répondre à la moindre action et promet que ce sera, en termes de force, plus important que ce qu'on a vu au cours de la fin de semaine. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de tensions, et on va en parler tantôt avec notre collègue Jean-François Lépine pour bien comprendre les enjeux. Et aussi, il faut ajouter donc l'arrestation à Montréal de 45 personnes, donc en marge d'une manifestation au centre-ville, édifice Scotia. Après plusieurs heures et plusieurs avertissements de la police, donc ces gens-là ont été arrêtés. Et puis, il faut pas oublier la situation à Gaza, parce que ça continue également. C'est peut-être tombé dans l'angle mort dans les derniers jours, mais Israël qui dit ce matin que on se retrouve encore une fois avec des opérations militaires, des attaques contre le centre de la bande de Gaza. Et au total, c'est important de le rappeler, 33 000 personnes sont décédées selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. On a plus de 75 000 blessés et les enjeux d'aide humanitaire, de nourriture, d'eau sont encore plus que réels parce que les frappes continuent, les infrastructures sont impraticables et c'est une désolation quand vous voyez les images là-bas. Alors c'est sûr que le regard a été détourné en fin de semaine sur l'attaque de l'Iran, une première fois une attaque directe, mais Gaza, il n'y a rien de réglé, il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a encore ces cris de désespoir qu'on peut entendre des Gazaouis qui veulent de l'aide et qui veulent que ça cesse, tout simplement. Parlons de ce procès de Donald Trump, le premier procès de nature criminelle qui vise un ex-président américain. Alors, première journée, sélection des membres du jury. C'est une procédure qui va continuer aujourd'hui. Et c'est pas simple de trouver des gens qui peuvent avoir l'esprit dégagé pour porter un jugement dans ce dossier-là. Il y a 96 candidats jurés se sont présentés. De facto, la moitié et plus ont été éliminés. Les gens qui ont dit « j'ai une opinion », bref, qui se sont désistés. Et les autres doivent répondre à un long, long questionnaire sur leur consommation médiatique, sur leurs opinions politiques. Indirectement, on tente évidemment de faire un certain filtre pour s'assurer que les hommes et les femmes qui sont retenus vont être capables de juger la cause. Alors, ça se poursuit aujourd'hui. On a vu un Trump irrité hier, qui riait à quelques occasions, quand le juge, entre autres, a dit « je vais m'assurer que le procès sera équitable et que s'il y a condamnation, je vais donner une peine qui sera en conséquence. La peine maximale, c'est 4 ans de prison. » Et je rappelle le fond de l'histoire. Il y a 34 accusations, mais c'est d'avoir falsifié des documents pour couvrir un scandale sexuel, avoir pris son avocat personnel pour faire un paiement à cette reine du porno, Stormy Daniels, et donc d'avoir camouflé cette transaction à la veille d'un scrutin. Et c'est pour ça, parce que plusieurs m'écrivent en me disant « Oui, mais s'il veut sortir avec une actrice porno, ça regarde qui? » C'est pas le fait qu'il l'ait fréquenté, c'est plutôt le fait qu'on a utilisé des fonds électoraux, puis qu'on a détourné de l'argent, puis qu'on a truqué des documents pour essayer de le protéger. Alors c'est l'essentiel. Lui dit évidemment que c'est une attaque contre l'Amérique, que c'est une procédure politique, et il va le répéter, le marteler jusqu'à la fin. Ici, c'est jour de budget. Madame Freeland qui va présenter le budget, qui a été, exposé par tranches depuis les dernières semaines. Les sommes colossales annoncées par M. Trudeau, il y en a pour 40 milliards au total, 38-40 milliards, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'aide alimentaire dans les écoles, améliorer les équipements des forces armées canadiennes. Et là, la question ce matin, en fait, il y en a deux. Le déficit va atteindre quel niveau? On parle de possiblement 40 milliards de déficit. Deuxièmement, c'est très clair qu'on veut taxer les riches. Mais là, les fuites. Par exemple, dans le Globe and Mail, on dit que ce ne sera pas le fameux 1 % des gens les plus riches au Canada qui vont être taxés davantage. Ce serait moins que ça. Moins de 1 %. Alors, quel sera le critère? Hier, on parlait de ceux et celles qui font 300 000 et plus par année, qui pourraient payer plus. Et également, on pourrait taxer davantage certaines entreprises. C'est pas mal ce qu'exige le NPD pour soutenir le gouvernement, qui, rappelons-le, est minoritaire. Et M. Trudeau est toujours là en difficulté dans les sondages. Et on peut déjà anticiper la réponse de Poilievre, qui, lui, est en avance. Là, il y a le vent dans les voiles, qui va dire que c'est un gouvernement glouton, c'est un gouvernement qui dépense sans arrêt, c'est un gouvernement qui taxe et qui est pas productif. Et vous avez plusieurs économistes aussi ce matin qui disent qu'il faut faire attention avant de commencer à mettre des taxes aux entreprises supplémentaires. On comprend, là. Mais que c'est rien pour améliorer la productivité des entreprises au Canada. Je parlais tantôt de l'insatisfaction du Front commun, de plusieurs syndicats, puis des syndiqués qui s'expriment. Prenons le cas de la FIC. On sait que dans l'Est de Montréal, ça a été rejeté massivement. En Abitibi, ça a passé. Et hier, avec la présidente de la FIC, qui a beau dire, qui a beau faire, là, il y a quand même une forme de vote de non-confiance pour l'exécutif syndical. T'sais, elle peut bien prendre ça avec le sourire, là, mais quand t'as autant de gens qui rejettent une entente que t'as décidé de présenter, c'est quand même un message qu'on envoie. Et quel est l'enjeu? Le principal, c'est la possibilité de se faire déplacer, par exemple, d'un hôpital vers un autre centre, parce qu'on va créer, puis ils sont pas champions pour expliquer leurs affaires, là, parce que c'est dur à suivre pour le public. Mais on parle d'un centre d'activité qui pourrait regrouper, par exemple, deux unités, un hôpital, un CHSLD, et faire en sorte, puis l'exemple qui est donné, là, qu'une infirmière qui travaille dans une clinique, par exemple, puisse être déployé vers un centre de soins de longue durée, et en autant que c'est dans un rayon d'un certain nombre de kilomètres, là, mettons 25 kilomètres. Et elles ne veulent pas ça. Puis elles partent de l'expérience de la Mauricie, et Dieu sait que j'en ai eu des courriels de la Mauricie, là, où on a fait des projets pilotes, puis il y a eu une vague de démissions d'infirmières. Donc, alors qu'on veut ramener des infirmières dans le réseau de la santé, pour beaucoup d'entre elles, puis là, on parle des infirmières, mais on peut parler des préposés, on peut parler des inhalos, ben ces gens-là disent, c'est pas vrai qu'on va accepter ce genre de situation. Pourtant, dans d'autres régions, ça n'a pas l'air d'être un enjeu, ça a été quand même entériné avec une forte majorité. Et je sens aussi un peu d'impatience de la part des auditeurs qui disent, coudon, là, ils ont des salaires qui ont augmenté de façon importante dans les dernières années. Nous aussi, on fait 20 kilomètres pour aller travailler. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive, là. On n'est pas toujours à la même place. Il y a un petit peu, là, autant il y avait beaucoup de sympathie, de compassion pour le personnel de première ligne. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais les syndicats auraient intérêt à pas mal mieux s'expliquer. C'était pas convaincant hier, la présidente de la FIC. Puis les membres ont trouvé ça aussi. Alors ça, c'est un exemple quand même assez frappant. Et aussi ce matin, ça c'est quand même assez rigolo, on se souvient tous des comptes de dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal. T'sais, d'abord, cette patente-là là, qui se donne des airs de pan et de donneur de leçons à travers le monde en disant, nous allons expliquer à la planète, notre expertise est tellement importante. Puis là, on déjeune dans les grands restaurant de Montréal, puis on file la facture aux contribuables. Et ça a amené le départ de la présidente du comité exécutif, Dominique Olivier, qui poursuit également, là, puis c'est une chicane, puis une chasse aux sorcières. Le Journal de Montréal nous explique ce matin qu'il y a plusieurs fonctionnaires de différents niveaux qui ont pris les devants et qui remboursent les factures avant de se faire pogner. C'est quand même assez drôle. Alors, vous avez la déléguée du Québec à Londres qui a fait un chèque de 364 $. Elle avait réclamé un remboursement pour un repas, dit-elle, par erreur. Et là, vous êtes diplomate délégué à Londres, vous avez des rencontres, puis ça se passe pas dans un restaurant de Un snack bar, là, tu sais, ça se passe dans des grands restos, des clubs privés, puis ça coûte cher. Pis la plupart du temps, c'est remboursé. Mais là, elle a dit, finalement, j'ai pris une bouteille de vin à 150$ pour être sûr de pas me faire débusquer. Je vais rembourser. Puis la ville de Montréal, on fait la même chose. Ils ont fait le ménage à la société du parc Jean-Drapeau dans les factures. Puis des remboursements même qui datent de 2022. Là, ils ont tout repassé ça. Le DG de la ville qui s'en va, là, monsieur Lamontagne, lui aussi, il a dit, oh, je me suis trompé de carte, la facture n'aura pas dû se retrouver dans le compte. Alors, vous avez plein de gens comme ça qui, trouvent des factures en disant, j'aurais pas dû demander un remboursement, et qui font un chèque pour fermer le dossier. Puis au même moment, vous avez un procès pour abus de confiance, c'est dans la presse de ce matin, d'un gestionnaire de la ville qui aurait réglé les dossiers pour un promoteur immobilier. Le gars a été assassiné, propriétaire de 700 logements. Il s'appelle Tinel Timou. Et M. Timou, donc, avait des enjeux. Par exemple, des amendes, des ordonnances pour corriger certains défauts dans ses immeubles. Et il y a un agent d'infiltration, il y a eu de la filature, contre Sadek Lazouzi, qui serait illégalement intervenu en faveur de ce promoteur pour fermer un dossier de non-conformité aux règlements municipaux. Et tout ça en échange d'argent. Puis le message, c'était, dites-moi-le le plus vite possible, parce que quand c'est trop loin dans la machine, c'est difficile de rattraper tout ça.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler d'enfants maltraités. Je reviendrai dans les prochaines minutes sur le cas qui est cité dans la presse ce matin d'un enfant qui a eu des fractures, qui a été négligé alors qu'il était dans un centre de réadaptation sous la responsabilité de l'État. Les parents ont décidé de poursuivre. Mais l'autre cas que je veux vous présenter, c'est celui d'un enfant qui aurait été violenté par l'éducatrice de la garderie, c'est une garderie en milieu familial, qu'il fréquentait l'été dernier. Vous comprendrez qu'on va protéger l'identité des gens impliqués. Donc, la mère de l'enfant est avec nous. On va l'appeler Louise ce matin. Bonjour, Louise.
Bonjour, M. Arcand.
On va prendre ça vraiment du tout début. Parlez-moi de votre enfant. Il a quel âge, puis à quel moment il commence à fréquenter la garderie?
Mon fils a commencé à fréquenter la garderie en juillet 2023. Et un mois plus tard, donc il avait 11 mois à l'époque, parce qu'aujourd'hui il a un an et demi, on revient à la maison comme à tous les soirs. Mon conjoint va le récupérer à la garderie. On revient à la maison. Je lui donne son bain et je lâche un cri de mort parce que je découvre sur mon fils des marques qui ne semblaient pas être là le matin parce que je pose des questions à mon conjoint suite à mon cri. Et là, je lui dis, est-ce que c'était là ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? S'est-il passé quelque chose? As-tu remarqué quelque chose ce matin? Il m'a dit non, il n'y avait rien. J'ai changé deux fois la couche, puis ensuite on a quitté ensemble. Je lui dis, ben OK. Parfait, pas de problème. Sur l'état de panique, ensuite, le lendemain, il peut aller à la garderie. Moi, j'avais déjà des contacts avec le bureau coordonnateur à l'époque parce que j'avais des soupçons qu'il se passait quelque chose. Parce que les réactions de mon fils lorsqu'on le laissait à la garderie le matin étaient loin d'être celui d'un enfant qui s'adaptait facilement à son milieu.
OK, ouais, expliquez-moi ça plus en détail. Vous dites, bon, il est revenu à la maison, vous avez constaté qu'il y avait une échymose, c'était inquiétant, mais vous dites, j'avais des doutes, j'avais comme un malaise depuis un certain temps.
Oui, en fait, il y avait déjà passé la période du 15 jours, tu sais, le fameux 15 jours qu'on dit, un enfant s'adapte après 15 jours dans une garderie, ça devrait aller mieux après 15 jours parce que c'est la nouveauté, tu as été en congé de maternité pendant 9 mois, il était avec sa mère, puis il était avec moi pendant 9 mois. Mais après les 15 premiers jours de cette fameuse adaptation, mon fils, c'était de pire en pire sa réaction. Il nous tenait le chandail comme si sa vie en dépendait. On le déposait dans les bras de l'éducatrice. Puis au moment où on le déposait, il se mettait à hurler. Puis elle fermait la porte. Là, c'était sa résidence à elle. Et nous, on était dans le parking et on l'entendait pleurer. Puis mon fils pleurait jamais. À la maison avec moi, là, c'était un enfant souriant. Il mordait dans la vie. Puis à chaque fois qu'on récupérait mon fils le soir, on lui posait des questions. Ah, oh, il a pleuré toute la journée. Là, j'ai à mon chum, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, il y a quelque chose qui me dit que, mon feeling de mère me dit que ça marche pas. Il y a de quoi qui bloque. Dans ma tête et dans mon cœur, ça marchait pas. Là.
Est-ce que vous l'avez, ben vous dites, je vais poser des questions, mais une fois après avoir constaté la blessure là, à la fesse, l'ecchymose, est-ce que vous êtes allé la voir? L'avez-vous confrontée?
Oui. Mon conjoint a posé des questions. Elle restait muette dans un total mutisme, on va dire. Puis en plus de ça, on a demandé voir s'il y avait, parce que normalement, quand un enfant se blesse en milieu de garde, on est supposé avoir des rapports d'accident. C'est un accident. Pas de rapport d'accident, pas de réponse à nos questions.
Pas d'explication.
Non, pas d'explication.
Bon, là, vous me dites, il y a quelqu'un qui a enquêté là, du bureau coordonnateur. Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches par la suite?
Oui. Suite à ma... On avait déjà fait des plaintes pour non-conformité parce qu'il y a des choses qui me dérangeaient. On a rajouté une plainte de violence physique suite aux événements. Et là, suite à ça, le bureau coordonnateur a transféré notre dossier au département des enquêtes spéciales de la DPJ.
OK.
Parce que c'est la procédure. Et ensuite de ça, conjointement avec la Sûreté du Québec, la DPJ et la Sûreté du Québec ont fait enquête. Et vers le mois de novembre, ben ils ont pris ma déposition et celle de mon conjoint. Et là, récemment, je dirais au mois de février, la SQ a fait signer un papier à mon conjoint pour que le dossier médical de mon fils qui prouve que c'est bel et bien de la maltraitance qu'il a vécu parce qu'on a mon fils a passé des tests au mois quand c'est arrivé, il a passé des tests à Sainte-Justine dans la clinique de maltraitance. Et quand on est sorti, c'est évidemment que la blessure a été causée par un traumatisme causé par quelqu'un, par un être humain. Là. Et à ce moment-là, en février, mon conjoint a signé le papier pour qu'on transmette les informations médicales de son dossier
à la Sûreté.
Au DPCP.
Au DPCP. Si on résume, là, vous constatez que votre enfant est pas heureux à la garderie, c'est le moins qu'on puisse dire. Assez rapidement, vous constatez cette blessure. Il y a une enquête, la DPJ embarque là-dedans. Votre enfant est examiné à Sainte-Justine. On confirme qu'il a été victime de maltraitance. Là, c'est entre les mains du DPCP. Mais ce que vous dites, c'est que il y a un problème de quoi? De communication entre l'hôpital et le DPCP?
Ben, hier, j'ai parlé à la procureure de la Couronne au dossier. Et elle m'a confirmé que le papier que mon conjoint a signé en février a été transmis, mais elle attend toujours les 10 papiers qui proviennent de Sainte-Justine. Donc, au moment où je vous parle, on peut pas savoir s'il y aura des accusations portées ou non, parce qu'on attend les papiers de Sainte-Justine. Les délais sont vraiment trop longs. Depuis le mois d'août, là, c'est en branche de ces processus-là. Et ça va faire un an au mois d'août cette année, puis on attend toujours un aboutissement dans ce dossier-là.
OK, quelques questions. D'abord, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui auraient été aussi maltraités?
Dans cette garderie-là?
Oui.
Moi, de ce que mon conjoint et moi savons, c'est que on a entendu des choses au mois de novembre, avant qu'on signe on fasse une déposition à la police. Mon fils est arrivé dans une autre garderie et mon éducatrice actuelle a une amie qui a accueilli un autre des enfants de la même garderie où mon fils était avant. Et l'amie à mon éducatrice a dit, écoutez, je ne veux pas vous inquiéter, mais un des enfants qui était avec ton fils verbaliser des coups.
Est-ce que cette garderie-là, pas celle actuelle, mais celle où l'événement s'est produit, est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce qu'elle garde encore des enfants?
De ce qu'on m'a confirmé, elle a été fermée une semaine après les faits, mais rien nous dit que dans le futur, elle ne pourra pas réouvrir au privé et se décharger plein prix aux parents, etc. Mais pour aller au privé, ils n'ont aucun pouvoir, le gouvernement, de fermer des garderies privées.
Ben, il y a un certain pouvoir.
Il ne peut pas l'empêcher.
Ouais, mais je pense qu'il pourrait quand même. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que vous dites, c'est qu'actuellement, c'est fermé.
Oui, actuellement, c'est fermé.
OK.
Ça, c'est confirmé. Là, ça ne sera pas réouvert tant qu'il y a une enquête.
OK. Là, j'ai une question pour vous. Là, vous ne l'aimerez peut-être pas, mais il faut que je vous la pose. Il y a des auditeurs qui vont se dire, là, mais pourquoi vous n'avez pas retiré votre enfant de la garderie plus tôt que ça si vous sentiez qu'il y avait un problème?
On a le, comment je pourrais dire ça? C'est parce qu'il y a, un aspect plus compliqué que ça là-dedans aussi. C'est que avant, on a laissé le 15 jours passer.
Ouais.
Parce que oui, il y avait mon appréhension de mère. Mon conjoint me disait, oh, laisse-y la chance, ça va bien aller, ça va se placer. Puis là, le temps que je parle au bureau coordonnateur parce que la personne est en vacances, puis qu'on fasse des démarches pour les affaires de non-conformité, parce qu'il y a une question de non-conformité là-dedans.
Mm-hmm.
Ça l'amenait au mois d'août.
Okay.
Au fameux événement là, que je vous raconte aujourd'hui. Fait que, il y a eu des questions aussi de. Il a commencé au mois de juillet, puis ça s'est étalé okay. sur un mois.
Parfait.
Fait, puis je peux pas faire. Je peux pas. J'avais comme une entente. Où, il y a l'espèce de contrat aussi que tu signes au début quand tu deviens membre d'une garderie. Là.
Ouais.
Faut que tu respectes un espèce de contrat. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là aussi. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'aurais pu le retirer puis attendre qu'il me rappelle pour une autre garderie, mais ça marche pas de même.
Dites-moi, votre enfant aujourd'hui, il fréquente une garderie?
Oui.
Ça va bien?
Oui, dans son nouveau milieu, ça va super bien.
Il est content, il est heureux, puis il y a un an oui. et demi, vous m'avez dit, puis il est de bonne humeur quand vous allez le reconduire?
Oui. C'est le jour et la nuit avec l'ancienne garderie.
Merci d'avoir été avec nous, Louise.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir, Louise. C'est son nom fictif, bien sûr. Mais ce qui est important de mettre en lumière deux choses. D'abord, les délais, la paperasse, la communication d'une preuve potentielle. Si c'est vrai que l'hôpital Sainte-Justine a le document entre les mains, que les parents ont autorisé le transfert de l'information, ça serait bien que la procureure qui doit ou pas porter des accusations puisse prendre sa décision avec toute l'information. Donc, Sainte-Justine transfère le document le plus vite possible au procureur dans le dossier. Ça, c'est un. Deux, ça montre à quel point, quand un enfant parle pas, parce qu'il y a 10 mois, quand ça arrive, là, pas capable de verbaliser, c'est difficile d'aller chercher de la preuve sur un événement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut croire que c'est assez inquiétant pour qu'on ferme rapidement la garderie en question. Et l'autre chose, s'il y a eu de la maltraitance, et les éléments semblent indiquer que oui, ça serait bien qu'on puisse accuser pour éviter que des gens qui maltraitent des enfants puissent comme ça se promener d'un endroit à l'autre puis reprennent un peu le même pattern. On vient avec une autre histoire, de maltraitance dans les prochaines minutes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On revient sur ces allégations de maltraitance. Cette fois, ça vise un centre de réadaptation, l'unité Le Jardin du 6 de Laval. C'est l'histoire d'un enfant autiste, déficient intellectuel de 9 ans, qui avait été confié donc à cet établissement il y a un an, ou en fait, ça s'est passé l'an dernier. Et là, les parents ont découvert des fractures, ecchymoses, des caries, des problèmes de peau, faute de soins. Et il semble assez clair que cet enfant-là a été maltraité et négligé pendant son séjour dans cet établissement. C'est une enquête de La Presse. Ce matin, j'en parle avec la journaliste Ariane Lacourcière. Ariane Lacourcière, bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi un peu de cet enfant exactement. D'abord, pourquoi il s'est retrouvé en centre de réadaptation?
En fait, c'est que les parents, cet enfant, c'est un enfant qui a beaucoup là, de défis. Il est lourdement handicapé, autiste, comme vous l'avez dit, déficience intellectuelle. Les parents prenaient soin à la maison, mais pendant l'été dernier, l'enfant qui fréquentait le camp de jour a été expulsé du camp de jour. Donc là, les parents se sont retrouvés à devoir prendre soin de lui là, toute la journée. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup de surveillance, 24/7, même la nuit, il fait beaucoup d'insomnie. Donc les parents se sont rendus un peu au bout du rouleau. Ils ont un autre enfant neurotypique qui sentait qu'il négligeait beaucoup, était vraiment, vraiment au bout de leur capacité. Donc, on a décidé de le confier au réseau de la santé dans l'unité Le Jardin. C'est une unité qui avait été créée, elle a été bâtie dans un centre jeunesse, mais c'est une unité qui relève là, du CRDI, comme on dit, pour les enfants avec des déficiences intellectuelles. Puis, donc, cet enfant a été confié là avec six autres enfants.
Et à quel moment les parents ont découvert là, qu'il y avait visiblement des problèmes, là, que ce soit de maltraitance ou de négligence?
Ben, je dirais que ça a commencé par des soupçons, selon ce qu'on comprend, selon ce qu'ils nous racontent. Au début, il y avait des bleus qui sont apparus sur le corps de l'enfant, demandaient des explications, n'avaient pas toujours des réponses. Puis je dirais que le premier événement majeur qui a peut-être soulevé des gros doutes, c'est un premier bras cassé en octobre dernier.
Puis est-ce que les intervenants là-bas donnaient des explications aux parents? Est-ce que les parents pouvaient aller sur place, voir dans quelles conditions leur enfant était gardé?
Oui, ça, c'est un des éléments qui a attiré notre attention, c'est que les parents n'avaient pas accès à cette unité-là, étaient tenus à l'extérieur, même quand ils allaient chercher leur fils, parce que des fois, ils prenaient leur fils à la maison pour des sorties, n'avaient pas le droit de rentrer dans l'unité. Le fils de Laval n'a pas donné beaucoup de commentaires sur ce dossier, mais a quand même reconnu que c'était pas dans leur pratique là, habituelle d'interdire aux parents. C'est seulement que 10 mois après que leur enfant a été placé dans cette unité-là, que les parents ont retrouvé le droit d'entrer dans l'unité à la suite d'une deuxième fracture de signalement à la DPJ. Vous me demandez là, s'il y avait des explications qui étaient données. Dans le cas de la deuxième fracture de bras qui est arrivée en mars 2023, donc on a donné une première explication aux parents en disant que l'enfant avait été laissé sans surveillance, qu'il s'était fait ça sûrement seul. Puis ensuite, on leur a donné une autre explication en disant que c'était peut-être un autre usager avec qui il avait été laissé seul, qui l'aurait peut-être maltraité. Mais les parents n'étaient pas satisfaits et avaient des sérieux doutes là, sur la qualité des services qui étaient offerts, selon ce qu'ils nous disent.
Oui, ce qui est encore assez troublant, là, les fractures, bon, évidemment, c'est grave, des ecchymoses, c'est grave, mais là, la négligence, le fait qu'il y ait des caries, puis qu'il est allergique à un certain nombre d'ingrédients et qu'il a quand même consommé les ingrédients, là, c'est la liste est longue, là.
Oui, en fait, leur thèse, en fait, je vais vous raconter celle de leur thèse parce qu'elle m'a particulièrement étonnée, là. C'est que cet enfant, après sa deuxième fracture, s'est fait installer une orthèse pour son bras. Puis donc, à un certain moment, l'orthèse s'est cassée. Les parents se retrouvent à Sainte-Justine. Et là, en ouvrant l'orthèse, l'orthésiste découvre là, vraiment une mauvaise odeur. Conclut que l'orthèse n'a jamais été lavée alors qu'elle devait être lavée tous les jours. Puis dans la poursuite là, qu'on a obtenue, le rapport de l'orthésiste dit que l'orthèse présentait des marques de pourriture, il y avait des macérations des plaies. Je m'excuse là, pour les descriptions peu intéressantes, mais c'est vraiment ce qui s'est passé selon la poursuite. Puis ensuite, au niveau des allergènes, ce qu'on allègue là, dans la poursuite, c'est que l'enfant se faisait donner des aliments, en fait, des vinaigrettes qui contenaient des œufs, notamment auxquels il était allergique, de la moutarde. Dans la poursuite, on mentionne même qu'à une occasion à l'école, dans son lunch, il y avait un œuf. Donc, c'est toutes sortes d'éléments là, qui amènent les parents aujourd'hui à poursuivre l'institution.
Puis, est-ce que c'est un enfant qui est capable de communiquer, de parler, de dire ce qu'il a vécu?
Non, c'est un enfant qui a des troubles de langage, utilise des outils là, comme plusieurs enfants là, avec sa réalité, donc des tableaux de communication, toutes sortes d'outils qui sont mis en place pour essayer d'amener ces enfants-là à manifester leurs besoins. Puis ça, les parents déplorent d'ailleurs que quand leurs enfants ont été placés au jardin, on lui a retiré ces outils-là, donc l'enfant s'est retrouvé sans outils de communication pour pouvoir manifester ses besoins.
Merci beaucoup, Ariane Lacourcière, qui est journaliste à la presse, et les parents donc, ont entamé une procédure, là, une poursuite d'engagés contre le CIS de Laval, donc qui est responsable de ça. Mais c'est encore une fois un cas d'un enfant, je le disais tantôt, quand la victime est pas capable de s'exprimer pour toutes sortes de raisons, trop jeune ou une déficience, comprenez que c'est compliqué de savoir exactement. Puis les parents disent aussi, c'est peut-être pas voulu, là, mais ce sont des enfants qui demandent beaucoup. Et quelqu'un peut perdre patience, même si t'es formé pour ça, qu'à un moment donné, il y a un coup qui part ou tu brasses l'enfant, puis tout ça parce que t'es comme surstressé dans ce contexte-là. Regardons maintenant la situation Israël, l'Iran et aussi Gaza avec Jean-François Lépine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors, 3 jours après l'attaque de samedi soir, on se rend compte maintenant qu'il y a une opération qui est promise par Israël. Israël dit, des militaires l'ont précisé, il y aura réplique, mais on ne sait toujours pas à quel moment, même si les parties font le bilan de tout ce qui s'est passé depuis samedi.
Oui, tout à fait. Hier, c'est le chef d'état-major des forces armées israéliennes, Herzi Halevi, qui a vraiment dit officiellement, comme le ministre Benny Gantz, qui est le leader de l'opposition au sein du cabinet, de guerre du gouvernement d'Israël. Donc, le chef d'état-major qui a dit « il y aura des représailles ». Évidemment, tout le monde se demande quand, et puis beaucoup de pays interviennent auprès d'Israël pour dire « il ne faut pas aller de ce côté-là ». Il y a encore aujourd'hui, ce matin, il y avait une réunion du cabinet de guerre, il y en a tous les jours depuis l'attaque. Il faut dire aussi qu'il y a un changement de ton du côté des Iraniens. Ça, c'est important, Paul. Après l'attaque iranienne, le président iranien Ibrahim Raisi avait décrit l'attaque comme étant une riposte modérée. En d'autres termes, on s'est retenu. On n'est pas allé aussi loin qu'on aurait pu. Et surtout, disait-il, une riposte légitime à cause de ce qui était arrivé, entre autres, à l'ambassade d'Iran à Damas le 1er avril. Mais aujourd'hui, le président Raisi, avec toutes ses spéculations de représailles israéliennes, menace, si l'Iran est attaqué, de contre-attaquer encore plus violemment. Alors, on voit là le ton qui monte, mais pour l'instant, donc, pas de représailles de la part d'Israël. En attendant, d'ailleurs, Israël bouge quand même. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères israélien a demandé à 32 pays, dont le Canada, d'exercer des sanctions contre le programme iranien de développement balistique, donc développement des missiles. Donc, ce qu'Israël demande, c'est des sanctions pour bloquer toutes les composantes technologiques qui pourraient aider au développement de ce programme-là. Et tout ça alors qu'on n'a même pas fini, Paul, tu l'as évoqué, de faire le bilan de cette attaque-là. D'ailleurs, les spécialistes disent qu'il va falloir des années aux analystes militaires pour comprendre. Ce qu'on sait, c'est que l'attaque révèle ce qu'on appelle la doctrine iranienne, qui est adoptée par les Russes, entre autres, en Ukraine, par les Houthis, ces fameux groupes terroristes du Yémen qui attaquent les navires en mer Rouge. C'est-à-dire, on attaque avec plusieurs types d'aéronefs ou de missiles en même temps. C'est la première fois, par contre, que Téhéran déploie elle-même cette stratégie-là, déploie son propre arsenal à partir de son territoire, avec l'implication, on le sait maintenant, durant l'attaque de samedi, du Liban, de l'Irak et du Yémen, qui ont aussi envoyé des missiles. On parle aujourd'hui, on le sait plus précisément, de 36 missiles de croisière, 110 missiles balistiques, 185 drones. Les drones, c'est des... Fabrice l'avait expliqué hier, c'est des appareils qui volent beaucoup plus lentement, qui ont une force de destruction, mais qui sont principalement là pour nuire au système de défense de l'ennemi, détourner l'attention, les mobiliser parce qu'ils sont lents, ça devient une cible évidente, alors que après ça, on déclenche des attaques de missiles qui sont plus difficiles à arrêter. C'est aussi la première fois de l'autre côté qu'une coalition internationale aussi importante s'est mise en action samedi en utilisant des systèmes de défense aussi sophistiqués que le fameux dôme de fer d'Israël, des systèmes aussi qu'on appelle les systèmes Arrow qu'Israël vend, fabrique un peu partout dans le monde et donc vend à l'Europe entre autres. Et qu'on utilise aussi les avions de chasse, les avions de chasse qui s'occupaient principalement des drones, les fameux drones qui nuisaient à la situation. La collaboration aussi, il faut le dire, dans cette coalition internationale de la France, de la Jordanie, des Britanniques, sous la direction, on le sait maintenant, du commandement central américain, avec les résultats qu'on connaisse, c'est-à-dire presque la totalité des projectiles, des missiles ont été détruits avant qu'ils aient pu atteindre le sol israélien. C'est une première donc pour les alliés, première pour l'Iran, première pour la Russie en Ukraine, et c'est ça qui est inquiétant, là, c'est une nouvelle forme de guerre dont on comprend de mieux en mieux le fonctionnement, et tout le monde fera ses bilans. D'ailleurs, l'Europe elle-même est en train de développer un système anti-aérien appuyé par une vingtaine de pays, pas l'ensemble de tous les pays d'Europe, et qui est dirigé par l'Allemagne. Il faut dire que cette fois, Israël et ses alliés avaient des informations à l'avance de l'attaque, de toutes sortes, hein, leur système d'espionnage, autant que les signaux que l'Iran donnait. Mais la prochaine fois, Ça pourrait être différent. Ça pourrait être une attaque beaucoup plus surprise. Alors, ça dépend du contexte dans lequel tout ça se déroulera. Mais il y a une chose qui est certaine, Paul, pour terminer là-dessus, c'est que tout ça a représenté, malgré le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de destruction en Israël, ça a représenté un échec pour Israël. Parce que Israël croyait avoir établi un tel système de dissuasion face à l'Iran. Si vous nous attaquez, les conséquences vont être graves. Ben, l'Iran a brisé ce système de dissuasion-là et a attaqué. C'est pour ça que tous les membres du gouvernement israélien, le chef de l'état-major, demandent des répliques.
Tu disais hier avec raison que l'Iran avait toujours mené cette espèce de guerre de l'ombre. Mais il faut rappeler quand même que le point de départ de l'offensive, la réponse de l'Iran, découle justement d'une attaque le 1er avril à l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, alors qu'on avait tué des dirigeants des gardiens de la Révolution.
Exactement. Et attaquer une ambassade, Paul, c'est comme attaquer le territoire d'un pays. Et en fait, dans tout ça, on voit que Israël, d'ailleurs comme l'Iran aussi, mais Israël surtout, est victime de sa propre théorie de la loi du talion. C'est-à-dire, depuis le début de l'histoire d'Israël, il y a cette mentalité qui dit, quand on est attaqué, il faut attaquer, contre-attaquer encore plus fort. Quand la force ne fait pas son effet, il faut rajouter de la force. Alors, ça donne que plus ça va depuis 75 ans de l'histoire d'Israël, plus les répliques et les représailles se font violentes. C'est un cycle de violence qui devient extrêmement dangereux. Et ce que tu rappelles, et c'est ça, c'est que, en fait, en attaquant l'ambassade d'Iran à Damas, on attaquait le territoire iranien, même si on s'attaquait pas au territoire réel comme tel. C'est reconnu qu'une ambassade, c'est des conventions internationales, c'est le territoire national d'un pays. C'était la première fois, donc, qu'Israël attaquait officiellement le territoire iranien et l'Iran. Téhéran ne pouvait pas ne pas réagir. La riposte iranienne, même si à peine 5% des missiles ou des drones ont atteint leur cible, est d'une telle ampleur maintenant, hein, on en arrive à ce point-là, qu'elle ne peut pas aux yeux des Israéliens et même de certains politiciens aux États-Unis, au sein même des démocrates, qu'elle ne peut pas rester sans riposte. C'est comme ça que ça se passe, Paul, depuis le début de la création d'Israël, et ça mène à toutes les dérives qu'on connaît. Et cette fois, personne, sauf Israël, semble-t-il, ne semble vouloir aller plus loin. Les alliés craignent qu'une riposte d'Israël crée, on l'a vu avec la réaction de l'Iran aujourd'hui, un nouveau front, un front externe qui dépasse le seul conflit de Gaza, puis qui s'étend à la région. D'ailleurs, hier, le lendemain de l'attaque de dimanche, le lendemain de l'attaque de samedi, le secrétaire britannique au Foreign Office, David Cameron, a prévenu Israël. D'autres l'ont dit aussi, mais lui, il l'a dit de façon vraiment forte. Si vous ripostez, vous, Israël, nous ne serons plus avec vous de votre côté pour vous aider. Alors ça, c'est vraiment un avertissement important.
Évidemment, il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe à Gaza. Il n'y a rien qui avance vers une solution. Il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu en vue. Et il y a toujours des difficultés d'approvisionnement pour les Gazaouis.
Oh, une situation humanitaire catastrophique là, qui s'améliore pas. Puis toujours ces bilans qu'on fait, hein, 33 000 morts, plus de 70 000 blessés. Il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir la semaine prochaine peut-être un répit du côté d'Israël à cause de la Pâque juive, le Pessah, qui commence lundi prochain. On verra si ça va s'avérer. Mais hier, un phénomène dont on parle peu, on parle de Gaza bien sûr, mais on parle peu de la situation en Cisjordanie, où la population palestinienne est plus importante. En Cisjordanie, là, j'entendais hier les témoignages de journalistes sur place qui disent que les grandes villes de Cisjordanie, Naplouse, Ramallah, Hébron, c'est des villes qui sont des poudrières. Ces villes-là sont cadenassées littéralement par les troupes israéliennes depuis le début du conflit à Gaza. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des problèmes économiques majeurs. Là aussi, il commence à y avoir des problèmes d'approvisionnement, mais surtout, Il y a des morts tous les jours, Paul, entre les Palestiniens et les colons israéliens, ça c'est important, qui sont très importants en nombre dans les territoires occupés de Cisjordanie. Donc, affrontement tous les jours entre Palestiniens, colons et l'armée israélienne, dont on parle peu, mais ça aussi, c'est une poudrière éventuelle.
Merci beaucoup, Jean-François. On va s'arrêter là-dessus. Jean-François Lépine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On a vu le résultat du vote des membres de la FIC. L'entente de principe avec le gouvernement a été rejetée à 61%. Ça, c'est le vote national. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de divisions au sein de la FIC quand on regarde les votes par région. Je peux penser à la Mauricie, la Montérégie, l'Abitibi qui a approuvé l'entente, et même dans l'Est de Montréal, où c'est un rejet quand même assez clair de la part des membres de la FIC. Le président du syndicat des professionnels en soins de santé de l'Est de l'île de Montréal est avec nous, Denis Cloutier. Monsieur Cloutier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Là, on va essayer de rendre ça le plus clair possible pour les gens, là. Qu'est-ce qui fait que dans l'Est de Montréal, les gens ont voté non, là, je pense, à peu près 80%?
Oui, effectivement, vous avez des bons chiffres. C'est à cette hauteur-là que l'entente de principe a été refusée, principalement à cause de la redéfinition des centres d'activité là, qui va permettre à l'employeur de déplacer nos gens. C'est principalement ça la principale raison qui a fait que les gens ont refusé. Après ça, il peut y avoir d'autres raisons que des gens n'ont pas apprécié certains articles, mais je vous dirais que la première raison, c'est les déplacements.
OK, quand vous me parlez de déplacement, pouvez-vous me rendre ça clair? Votre présidente, hier, on a essayé de comprendre, là, puis c'était obligatoire, c'était volontaire. Tu sais, une obligation volontaire, on a bien de la misère à suivre, là. Clairement, c'est quoi la menace pour une infirmière de l'Est de Montréal?
Ben, laissez-moi mettre ça clair là pour ce qui est de l'aspect volontaire. Là, il n'y a pas de problème avec le volontariat. Puis de toute façon, c'est tellement marginal que ça vaut pas la peine d'en parler. Le problème, c'est que quand on redéfinit les centres d'activité, ça c'est le lieu où les gens travaillent. Là. Avant, c'était simple. Là. C'était une porte, une trentaine de lits, un poste infirmier. C'était ça un centre d'activité là avant qu'on commence à jouer là-dedans. Là, le gouvernement veut que ça puisse s'étaler sur plusieurs hôpitaux différents, de façon à pouvoir déplacer les gens d'une place à l'autre sans leur consentement. C'est très important, là. On n'a pas rejeté une entente de principe pour des mesures volontaires.
OK, mais ça veut dire quelqu'un qui travaille à Maisonneuve-Rosemont pourrait se faire dire, tu vas aller travailler, je ne sais pas, dans un CHSLD plus loin.
Exactement.
Mais c'est quoi le problème?
Ben, parce que la fille qui travaille à Maisonneuve-Rosemont, elle a sa vie d'organiser en fonction de travailler avec Maisonneuve-Rosemont. C'est son expertise, ses collègues, ses protocoles. Elle a une place de parking là, puis elle n'aura peut-être pas dans le CHSLD. Les gens veulent pas changer d'endroit qui travaille comme ça, là. Ils sont pas différents du reste de la population.
Deux choses. La première, si je vous envoie faire une autre tâche, vous êtes infirmière, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, je vous donne une formation additionnelle parce que, je sais pas, vous êtes affecté à une clinique de vaccination, puis je vous envoie sur une unité haute. Si je vous forme, c'est correct, ça? Si je vous donne le temps d'apprendre
non,
la job?
Ça leur plaira pas pareil, M. Arcan. Les infirmières ont toujours choisi par postulation, depuis que ça existe dans le réseau, dans quel domaine elles travaillent. Si j'allais postuler pour travailler à l'hôpital Louis H. Lafontaine, on s'entend que je m'en allais faire de la psychiatrie. C'est un choix qu'elles ont fait de cette façon-là. Ça a toujours été comme ça que les postes étaient donnés. Là, de dire, il suffit que je t'oriente pour t'envoyer dans un autre domaine, ça leur plaît pas.
Bon, on va vous dire quelque chose que vous aimerez pas, là. Ça se peut-tu qu'il y ait des jobs moins contraignantes, moins durs, puis on veut pas les perdre, puis se faire envoyer sur des unités qui sont plus demandantes?
Ça pourrait arriver. Dans certains cas, je vous le cacherai pas, c'est pas le niveau d'intensité qui est le même partout, mais il y en a qui aiment ça, le niveau d'intensité.
Oui,
même
oui.
S'il manque du monde dans les urgences, il y a encore du monde que ça drive de travailler dans les urgences, à titre d'exemple. Mais le problème, c'est que quand c'est pas un choix, puis qu'on te l'impose, c'est là que les infirmières deviennent rébarbatives.
Est-ce que c'est l'expérience de la Mauricie où on a fait un projet pilote puis qui a amené une vague de démissions, là, qui a servi un peu de carburant pour le rejet?
Ah, certainement, là, la PDG de la Mauricie-Centre-du-Québec est en partie responsable de ce rejet-là. Parce que justement, à Mauricie-Centre-du-Québec, ça, c'est une des choses qu'on veut s'assurer, là, à cause de ce qui est arrivé là-bas, ils ont mixé des choses qui vont pas du tout ensemble. Ils ont pris des gens qui ont des expertises, qui travaillent dans le même domaine depuis 20-30 ans pour pouvoir les envoyer dans un autre domaine en fin de carrière. Là. C'est sûr, ça a amené à 300-400 démissions, des maladies, tout ça. Le monde sont découragés là-bas. Puis ça, les infirmières de partout au Québec en ont entendu parler.
Ça veut dire là, que si le Conseil du Trésor me dit, le ministère de la Santé me dit qu'il n'y a aucune obligation que tout ça va se faire sur une base volontaire, c'est pas vrai.
Non, c'est faux, M. Arcan. Pourquoi les infirmières ne seraient pas prononcées à ce niveau-là contre si ça serait des mesures volontaires? Non, c'est des mesures forcées parce qu'à l'intérieur du même centre d'activité qui peut devenir très grand, il n'y a pas de volontariat là-dedans. L'employeur te donne un préavis de 30 jours, je change ton port d'attache, puis t'as pas un mot à dire.
Pourquoi le syndicat a présenté ça à ses membres, ça au pas de la marde?
Parce que il y a eu beaucoup de pression quand on négocie. La FIC s'est rapidement trouvée isolée. Les autres syndicats du Front commun ont accepté cette définition-là parce qu'entre vous et moi, c'est pas des secrétaires, des préposés, tout ça qui veulent être déplacés. Là. C'est clairement les infirmières qui sont visées. Fait que là, la FIC s'est trouvée isolée, puis on finit par mettre quelques balises qui sont clairement insuffisantes pour la région de Montréal, raison pour laquelle les votes sont rentrés majoritairement en compte à Montréal, c'est pour ça. Mais elle est là, la question. Fait que là, la FIC s'est essayée, les membres ont dit non.
OK, l'Abitibi, eux, ont dit oui.
Oui.
Pourquoi?
En Abitibi, puis dans les autres régions, c'est d'autres choses. Parce qu'une balise de 35 km qui est mise. Fait que dans une région comme l'Abitibi, 35 km de ton établissement, des fois, il n'y en a même pas d'autres établissements. Vous comprenez? Tandis qu'à Montréal, là, 25 km à la ronde de Maisonneuve-Rosemont, j'ai des centaines et des centaines d'établissements de santé différents. Là. C'est là la réalité n'a pas été tenue en ligne de compte. Et à Montréal, M. Arcand, si j'insiste là-dessus, on n'est plus en 1980. Là. C'est pas tout le monde qui a une voiture et encore moins un espace de stationnement une fois rendu à destination. Fait que ça, il faut tenir ça en ligne de compte. On va pas commencer à faire traverser des ponts à du monde qui voyage en autobus puis qui vont prendre 2 heures de plus par jour pour aller travailler, là. Ça fait toute partie des raisons pour lesquelles ces mesures-là ont été refusées, telles qu'elles nous sont présentées actuellement.
OK. Là, il y a une pétition contre votre présidente, là, pour la faire démissionner.
Oh, OK. Si vous me l'apprenez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je comprends que des gens sont en colère, puis là, dans ce temps-là, on veut taper sur la présidente, peut-être. Mais en ce moment, là, c'est le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ qui veut imposer cette possibilité-là aux infirmières. Puis moi, je garde le focus de la négo là-dessus.
OK. Là. Mais M. Cloutier, là, l'objectif du gouvernement, c'est de ramener du personnel soignant, là, des membres inhalos, des infirmiers, des préposés, là, de ramener ça dans le système. Là, vous me dites que si cette clause-là avait été maintenue, non seulement il n'y aurait pas ramené grand monde, mais en plus, il y a des gens qui seraient partis.
Absolument. Puis tu sais, souvent, on entend parler, ça coûte cher. Je vais vous dire, M. Arcand, ce qui coûte cher, c'est tout le temps de jouer dans les structures de même qui poussent de plus en plus de monde à la retraite de façon hâtive, des démissions, des changements de carrière. Ce qui coûte cher aux Québécois, c'est toutes ces heures qu'on doit payer en temps supplémentaire puis aux agences, tellement qu'on décourage les infirmières de travailler dans le réseau public. Là. À un moment donné, il faut revenir à la base. Là, c'est ça qui coûte cher aux Québécois. Puis on dirait que le monde a encore de travers la réforme du docteur Barrette qui a causé un grand nivellement vers le bas sur leurs conditions de travail, puis ils voient arriver la réforme Dubé comme étant une espèce de réforme Barrette, ces stéroïdes-là. Fait que naturellement, elles ont des craintes, puis dans ce qui leur a été proposé, il n'y a pas assez de garanties.
Oui, mais moi, j'ai des échos, par exemple, des citoyens, puis là, c'est pas la question de mettre leur vie en danger, puis bon, mais qui se disent, « Hey, moi, j'en fais 20 km par jour pour aller travailler, je me promène en métro pour aller travailler, c'est fait partie de la vie, ça. »
Ben nous aussi, on se promène en métro pour aller travailler, c'est pas le problème, c'est juste qu'on va toujours au même endroit. Puis on organise notre vie en fonction de ça. Dans la région de Montréal, c'est encore plus vrai. T'sais, quand les infirmières qui sont appelées à faire des 16 heures par jour, quand tu vis à Montréal, tu travailles à Montréal, t'as d'affaires à proche de ton lieu de travail, là, quand tu vis travailler 16 heures, puis t'as à peu près 8 heures pour retourner chez toi, puis revenir au boulot le lendemain matin, t'as tout avantage à être proche de ton travail. Si on te rajoute 1h30 de transport là-dedans, ça va devenir totalement insupportable là, pour certaines d'entre elles.
Est-ce que on a commencé à discuter? Je sais qu'il y a eu des échanges dimanche soir, ça continue?
Il y a eu un premier contact, effectivement. Là, je pense que la FIX, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une tournée, nous convoquer, nous rencontrer. On va espérer qu'on puisse discuter de balises, des balises qui vont rendre la notion que le gouvernement désire beaucoup plus acceptable aux yeux des professionnels, parce que là, à ce moment-ci, c'est la seule voie de passage que je vois.
Parfait. Merci, M. Cloutier.
Ça me fait plaisir, M. Cloutier.
Au revoir. Bonne journée. Denis Cloutier, le président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal. Maintenant, le ministre Carman a annoncé hier de nouvelles mesures pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale au centre-ville de Montréal. Et on va essayer de comprendre exactement ce qui va changer. Docteur Stéphane Proulx est avec nous. Il est psychiatre et chef du service de l'urgence psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame. Docteur Proulx, bonjour.
Bonjour.
Donnez-moi un exemple concret de mesures là qui, en fait, parmi ce qui a été annoncé hier, l'impact réel sur le terrain.
Ben c'est en fait d'ajuster nos soins aux patients puis à la problématique le plus possible et puis d'agir le plus vite possible aussi. Donc en psychiatrie actuellement dans nos départements, dans la plupart de nos départements, bon, on a un appareillage en ambulatoire puis on a des unités internes quand il faut hospitaliser les patients. Maintenant, en fait, ce qu'on met sur pied à Notre-Dame, puis ça va être comme ça de façon homogène, je l'espère, le plus rapidement possible dans tout le Québec, c'est des unités d'intervention brèves. Donc, quand la problématique peut être réglée rapidement et intensément là, par des soins, ben on peut hospitaliser le patient et compter sur l'intensité pour être capable de régler ou en partie ou complètement le problème en 72 heures.
OK, donnez-moi un exemple de patient pour qui cette mesure-là pourrait s'appliquer.
Bien, les patients qui arrivent en crise à l'urgence pour toutes sortes de raisons, ça peut être un contexte psychosocial difficile avec des symptômes anxio-dépressifs. Ça peut être ce qu'on appelle un trouble d'adaptation, donc quand les capacités d'adaptation sont dépassées clairement par les stresseurs et qu'il y a à la clé des symptômes anxio-dépressifs ou des idées suicidaires ou un geste qui a été posé ou des paroles qui ont été dites et qui ont inquiété l'entourage. Ça peut même aller jusqu'à des patients qui sont déjà traités, mais qui subissent donc une rechute là, suite à un arrêt de la médication, suite à des symptômes qui se sont exacerbés. Toutes sortes de problématiques, en fait, qu'on pourrait mieux cerner avec une évaluation rapide, puis une intervention rapide.
OK. Parlez-moi de l'hospitalisation à domicile.
Oui, ben ça, en fait, ça fait partie là, de l'ensemble de ce qu'on est en train de mettre en place. Dans la région de la Capitale-Nationale, ils avaient une longueur d'avance. Là, nous, à Notre-Dame, on a installé notre hospitalisation à domicile. En fait, c'est ni plus ni moins que quand un patient peut quitter l'hôpital, qui a un chez-soi. Premièrement, il faut que le patient ait un appartement. On sait qu'au centre-ville, on a une problématique de patients sans-abri énorme. Mais quand les patients ont un chez-soi, ben, on peut donc les évaluer à l'hôpital. Et là, l'équipe intervient. Le patient peut quitter l'hôpital. Il n'y a pas besoin des quatre murs là, absolument pour protéger sa sécurité. Et aller donc à la maison. Et il y a une équipe qui va se déplacer trois fois par jour. En fait, on essaie de reproduire le contexte hospitalier le plus possible, mais à domicile, jusqu'à temps que la problématique de soit stabilisée.
Je regarde ça au centre-ville. Puis c'est important parce que la réalité du centre-ville, dans les dernières années, a beaucoup changé. On a parlé la semaine dernière des problèmes dans le métro de Montréal, des gens qui sont en psychose, des gens qui, bon, parfois sont agressifs, parfois ils ne sont pas, les gens au centre-ville de Montréal. Vous êtes le chef de la psychiatrie à Notre-Dame, là.
De l'urgence.
De l'urgence, oui, de l'urgence psychiatrique. Est-ce que l'expression Montréal devient, ou le centre-ville devient, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en détresse et qui n'ont pas d'endroit où aller?
Monsieur Arcan, je prends le métro tous les jours. Je viens de la Rive-Sud, donc je prends l'autobus et j'arrive au métro Papineau, puis je marche jusqu'à l'hôpital. Je peux vous dire que oui, je vois un changement important qui me frappe à tous les jours, non seulement dans le métro, mais aussi aux alentours du métro, presque jusqu'à mon chemin jusqu'à l'hôpital. Il y a une problématique de sans-abri d'itinérance à Montréal qui me semble plus criante. Bon, bien sûr, j'ai pas les chiffres, là, mais on peut l'observer. Dans le métro Papineau, il y a un petit coin de banc là où je débarque presque toujours en face, là où il y a des gens qui dorment là. Il y a parfois des seringues par terre. Il y a une problématique de consommation qui me semble aussi exacerbée. Et je cherche notre rôle comme leader pour la santé de notre population. L'hôpital Notre-Dame a certainement un rôle à jouer. Le CIUS du Centre-Sud a certainement un rôle à jouer. Et on tente de mettre sur pied. En fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a actuellement, là, parce que la demande est illimitée, puis les policiers nous amènent très souvent, plusieurs fois par jour, là, des patients en état d'intoxication qui troublent la place publique là, par leur comportement en état d'intoxication. Donc, on a un département de médecine des toxicomanies ici. On a la psychiatrie. On essaie de créer des liens entre nous. On essaie de créer des liens aussi avec les urgentologues qui sont au front à l'urgence générale. Mais c'est un problème qui nous dépasse là. C'est pas seulement médical. C'est aussi socio-économique. Et j'aimerais bien qu'on se penche là-dessus avec les décideurs puis qu'on soit capable de mieux aider ces populations-là, SDF, toxicomanes, pour que le portrait du centre-ville puisse changer puis que la souffrance diminue surtout.
C'est majeur ce que vous venez de dire, parce que c'est correct pour les mesures qui ont été annoncées hier, on comprend, oui, là, ça peut aider tout ça, mais ce portrait de Montréal que vous venez de faire, puis que des gens constatent quand ils voyagent comme vous en métro ou simplement sur la rue au centre-ville, c'est assez clair. Mais avec votre expérience, les patients là qui se présentent à l'urgence ou que les policiers amènent à l'urgence, est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont en psychose en raison de leur toxicomanie?
Bon, le diagnostic est toujours assez difficile à faire, mais ce qu'on peut constater d'entrée de jeu, c'est oui, une prépondérance de symptômes de psychose. Ensuite de ça, le psychiatre puis le généraliste à l'urgence, l'urgentologue, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un trouble psychotique qu'on dit primaire, donc préexistant, qui est exacerbé par la consommation, et c'est ce qu'on voit à l'urgence en aigu. Ou est-ce que, tout simplement, c'est un patient qui n'a pas de trouble psychiatrique primaire, donc pas de schizophrénie ou pas de trouble psychotique, et c'est exclusivement donc induit par les substances. Puis avec le cristal meth en circulation, avec les amphétamines en circulation, ce qu'on nomme les speeds là, ben c'est sûr que en stimulant la dopamine à ce point-là, là, on peut, chez un cerveau qui a pas de maladie primaire, causer des symptômes psychotiques. Donc on est toujours en train de se demander ça. Puis on essaie d'arrimer des soins le plus rapidement possible avec l'appareillage qu'on est en train de mettre sur pied là. On est en train de puis ce qui existait déjà aussi avec nos services itinérance de suivi des patients itinérants. On essaie le plus rapidement d'intervenir. Mais c'est toujours une question diagnostique épineuse.
Merci beaucoup, Dr. Proulx. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci. Dr. Stéphane Proulx, qui est psychiatre et chef du service de l'urgence psychiatrique de l'hôpital Notre-Dame.
C'est 23.